Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, toujours fidèle au micro Philippe Mollet pour vous servir. Chers auditeurs de Assiette et Fourchette qui nous suivez régulièrement, un grand merci. Merci aussi au réalisateur Monsieur Bruno Guglielminetti. Je ne sais jamais si je prononce bien son nom, qui à chaque fois je l'écorche un peu, mais il a l'air de me dire que c'est bien. Alors tant mieux. Vous savez, la dernière fois, là, je vous avais parlé que je vous ferais une recette de chocolat chaud. Mais oui, mais je l'ai pas oublié. Sauf que le temps s'est un peu adouci. Puis je me dis, mois de février, des fois, il y a un relent, là, c'est un coup de froid. Ben, je vais vous le servir parce que aujourd'hui, je vous parle pas de chocolat chaud, mais je vous parle d'une boisson tout aussi populaire et peut-être encore plus, le café. Le café est rentré dans nos habitudes de consommation et comme le thé, c'est une des boissons les plus consommées dans le monde actuellement. Vous allez voir à quel point cette boisson est tellement consommée qu'on en subit les conséquences indirectement, c'est-à-dire par le coût qu'a pris le café depuis un an. Alors, soyez attentifs parce que je vais vous donner des chiffres et vous allez voir que ça va vous surprendre. Il y a une bourse qui est à New York et qui régit tout ce qui est fonds monétaires pour le café, c'est-à-dire l'achat, le prix, la vente, tout ce qui peut exister sur le café, c'est vraiment, ça se passe à New York. Et en une année, 117% d'augmentation sur le café Arabica. 69% sur le Robusta, parce qu'il existe deux grandes variétés de café dans le monde, l'Arabica et la Robusta, dont je vais vous expliquer tout à l'heure les origines. Mais ça explique aussi beaucoup de choses, pourquoi vous payez plus cher votre café lorsque vous allez au supermarché ou au magasin spécialisé pour l'acheter. Ça explique plusieurs causes. Premièrement, on dit la Covid. Ben oui, les gens restent à la maison. Alors en restant à la maison, ben on se fait du café, on en fait plus longtemps, puis on consomme plus de café parce qu'on est chez soi. Donc la demande. Deuxième coup, le transport. Imaginez-vous qu'en l'espace d'un an, de 3 300 $, on est passé à 10 000 $ pour un conteneur. Donc le prix du conteneur, je parle vide là, le conteneur à transporter sur les océans. Donc ça fait une méchante augmentation. Et puis après, ben il y a les coûts de tous les intermédiaires. Non, c'est pas le producteur qui gagne le plus là-dedans. C'est ça le problème, c'est que les producteurs sont déjà beaucoup de pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud sont des producteurs de café, mais c'est pas eux qui vont chercher l'argent. C'est souvent les intermédiaires et les redistributeurs et c'est ça le problème. Alors le café, il y a toute une histoire quand même. On sait, mais je vais vous le dire, qu'il provient de l'Éthiopie à la base. Et souvenez-vous, dans le temps, on disait on veut un mocha. Un mocha, et il y a même un gâteau qui porte ce nom parce que c'est le gâteau au café. Eh bien, un mocha, c'est la ville d'où est partie au Yémen les premières productions de café. Donc voilà l'origine du café. Ça vient du Yémen, ça vient de tous ces coins-là. On en parle aujourd'hui, grands producteurs de café, notamment de Robusta, le Brésil. Il y a Cuba. Cuba a une particularité, c'est qu'on fait un café spécial qui s'appelle le Blue Mountain Café et qui est un café très cher parce qu'il a la cote. Mais c'est pas un café pour machine espresso. Je vous le dis tout de suite, c'est un café à mettre au percolateur parce que c'est pas un café qui va passer dans la machine qui va vous donner de la force ou du caractère. On a parlé de deux souches dans le café. Il existe l'Arabica, donc arabe, hein, donc la souche arabe du café, et le Robusta, qui est un café plus robuste qu'on a retrouvé en Amérique du Sud, mais notamment au Brésil, dans différents pays, l'Uruguay, dans tous ces pays-là, on fait du café. On en fait dans beaucoup de pays, hein, mais c'est pas tous les pays qui l'exportent. Et il y a donc ces deux espèces, ces deux variétés de café, qui sont l'Arabica et le Robusta, qui se conjuguent fort bien ensemble. Ce qui veut dire que le premier café au niveau de la finesse, c'est l'Arabica. C'est un café plus fin, c'est un café qui a plus de caractère, c'est un café qui va se torréfier différemment, et le Robusta est le café qui va apporter le crémeux sur un café, ce que les Italiens appellent la crema. Donc on va retrouver, quand on va en Italie, vous allez voir qu'il y a quand même un des pays spécialistes dans la fabrication du café, non pas dans l'origine ni la production, mais dans la fabrication du café comme tel, eh bien, il y a des facteurs qui vont être le mélange, l'eau, hein, très importante. En Italie, on prend de l'eau pure ou distillée, donc ça c'est très très important, puis la machine avec laquelle vous allez faire votre café. Donc, je reviens à l'histoire. On est au début du 9e siècle, on découvre que des fermiers s'aperçoivent que leurs chèvres sont en train de brouter des graines un peu spéciales, des cerises un peu spéciales, qu'on appelle la cerise de café. D'ailleurs, ça porte encore ce nom-là lorsqu'elle est fraîche. et qu'elles ont plus d'énergie que les autres. Et petit à petit, on décide d'infuser ces graines et d'en faire une boisson. Mais là, on n'a pas encore pensé à la torréfaction. Donc, on boit tout simplement une infusion de grains de café que l'on sert comme ça. Il faudra attendre, en fait, le début du XVIe siècle pour voir le café quitter donc le Yémen, quitter toute cette région d'Éthiopie, pour le voir en Angleterre arriver tranquillement. Mais en Angleterre, la compétition est avec le thé. Il ne faut pas oublier que les Anglais sont d'abord des consommateurs de thé avant de consommer du café. On voit le café ensuite arriver en Italie, en France, et on voit aussi la naissance de ce qu'on appelle par la suite les cafés. Donc les cafés, c'est un endroit où l'on vient prendre cette boisson chaude particulière que l'on nomme le café aussi. D'ailleurs, il y a une particularité qui m'a toujours fasciné lorsqu'on voyage par exemple au Maroc, en Tunisie ou dans les pays arabes. Ben, on l'appelle le kawa, parce que le kawa, c'est le nom, le diminutif du café, c'est le nom en arabe. Alors, c'est intéressant de voir cette histoire de cette boisson, j'allais dire presque millénaire, qui aujourd'hui est devenue très 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 populaire, à un point tel où on en trouve partout et on en consomme de toutes les façons. D'ailleurs, un des achats dans l'électroménager cette année, je sais qu'il y a beaucoup de salons qui prônent à l'électronique et toutes sortes, un des achats favoris aujourd'hui des Québécois, des Canadiens et du reste du monde sont les machines à café, machines à espresso. On est passé de l'infusion du café traditionnel avec la cafetière Kona, qui est une cafetière à deux niveaux, de l'infusion dans les bas, dans les chaussettes avec les cafetières traditionnelles, on est passé vraiment à la machine à espresso. Et Dieu sait qu'il y a tous les modèles de toutes les choses, mais ça ne sera pas l'objet de la chronique aujourd'hui. Donc, le café est devenu extrêmement populaire. La torréfaction, ben, c'est ce qui va jouer sur la qualité du café, c'est-à-dire c'est ce qui va jouer sur le goût. La torréfaction, ça consiste à prendre les graines de café, donc qui ont été lavées, nettoyées, à les mettre dans une machine qui va rôtir, qui va torréfier le café tranquillement, pour l'amener à un certain degré, mais aussi à une certaine coloration. Et on parle du café ambré, donc tranquillement. Donc on va avoir un café doux, suave, quand on le torréfie modérément. Puis plus on va avancer dans la torréfaction, plus on va avoir un café qui va être fort. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le café aussi, il peut y avoir un inconvénient, c'est qu'il peut devenir amer très vite. S'il est grillé trop vite, s'il est brûlé, eh ben il va devenir très très amer. Et par la suite, il va rejeter de l'huile. Donc, souvent, lorsque vous achetez du café dans des centres de torréfaction, vous allez le voir, on voit une huile dans les pots dans lesquels il est contenu qui, tout autour, masque un peu le pot là, à l'intérieur. Donc, cette huile de café, elle est grasse, elle est très très, et elle est récupérée d'ailleurs pour faire certains ingrédients spécifiques comme des bonbons ou des choses comme ça. Donc, le café, il est torréfié, et là, ce qu'on va avoir, c'est l'équilibre parfait. Alors, l'équilibre parfait, ben, il va dépendre d'une maison, il va dépendre de l'assemblage qu'on y fait, et comme je vous expliquais tout à l'heure, lorsque l'on prend, par exemple, un café arabica, qui est beaucoup plus fin, au niveau de la finesse, les grains sont plus petits, et on va le mélanger avec un pourcentage de robusta pour aller chercher cette fameuse crema dont raffolent particulièrement les Italiens lorsqu'ils font un espresso corto, un espresso court. Et Dieu sait que on peut presque faire tenir la cuillère à l'intérieur lorsque vous allez en Italie. Croyez-moi, vous en prenez pas 10 des cafés comme ça dans la journée parce que après, on est un peu énervé et excité, même pour dire. Alors, mais ça fait partie de la tradition où on prend son espresso court et c'est ce qui va vraiment apporter au café toute sa saveur, son goût particulier et sa force. On parle aussi d'une méthode qui s'appelle la façon de décaféiner le café, donc d'enlever la caféine, ce que certains spécialistes trouvent de façon négative, mais qui en même temps va apporter cette force et c'est un peu cette nervosité que l'on découvre chez certaines personnes, donc qui va les empêcher de dormir même, quelquefois. Et c'est mon cas. Moi, je ne peux pas prendre de café à partir de midi parce qu'après, j'ai des problèmes au niveau du sommeil. Donc, le décaféiner un café, il y a deux procédés. Il y a un procédé suisse qui date depuis toujours, qui consiste à mettre les grains dans de l'eau, à rincer fréquemment. C'est un procédé naturel qui fait qu'on va enlever petit à petit, on va l'infuser, on va enlever petit à petit la caféine du café avec cette méthode. Donc, c'est la méthode suisse. Et ensuite, il y a la méthode chimique, où là, on va ajouter des produits chimiques pour enlever justement cette caféine. Alors, je déconseille d'utiliser cette méthode et vous êtes en droit de demander Lorsque vous achetez du café chez un torréfacteur, est-ce que c'est le procédé suisse ou le procédé chimique? Ils vont vous le dire parce qu'ils le savent. Donc, voilà pour le café. C'est cette boisson magique, j'allais dire, dont on peut se passer. Certains vont le prendre avec du lait, certains vont le prendre nature, mais c'est vrai qu'il y a toutes les façons de le consommer, et rien ne bat un bon café. Après, à vous de trouver votre mélange, celui qui vous convient le mieux. Juste une chose, un conseil, moi, si vous n'utilisez pas de café rapidement, ce qui n'est pas mon cas, puisque le café, il n'en reste jamais à la maison, je vous suggère de garder les grains de café au congélateur, de façon à éviter une détérioration des corps gras du café à l'intérieur. Alors voilà pour ce sujet, c'est un sujet qui quand même fascine tout le monde et qui plaît, j'espère que ça va vous plaire, chers auditeurs d'Assiette et Fourchette. Et maintenant, je vais vous parler du prix du beurre, parce que j'ai été choqué depuis trois semaines, de voir, même depuis un peu plus, de voir les augmentations du prix du beurre, dont j'ai même arrivé de voir du beurre à 9,99 la tablette de 450 grammes, là, c'est un peu exagéré. Ben pourquoi ça arrive comme ça? C'est parce que les laiteries, là, jouent à la chaise musicale. Hein, à un moment donné, ils vont vous dire, ah ben, on fait pas d'argent, puis là, ils vendent le beurre à gros prix. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les gens ne l'achètent pas. Donc, ne l'achetant pas, eh ben, ils se retrouvent avec des stocks. Et là, tout d'un coup, vous allez voir passer dans la circulaire ou les grandes surfaces, vous mettre le beurre en gros spécial. Alors, il m'est arrivé de trouver dans des grandes chaînes de magasins, cette semaine, du beurre à 4,59 la livre, ce qui là est vraiment pas cher. Alors, le truc à faire, parce qu'ils vont évidemment vous limiter, vous achetez une journée 3 paquets de beurre, vous le mettez au congélateur, vous rachetez le lendemain 3 paquets de beurre, et comme ça, vous en avez pour un bon petit moment. Il y a beaucoup de chances que le beurre que vous allez trouver en supermarché ait déjà été congelé. Ça, je vous le dis, là, parce que le beurre est un produit qui se congèle fort bien. Si vous l'achetez, on va dire souvent, il ne faut pas recongeler, ben, vous pouvez le recongeler parce que c'est une matière qui n'a pas été ouverte. Donc, vous pouvez le recongeler, vous pouvez le garder au maximum 6 mois chez vous dans votre congélateur, puis il n'y aura aucun problème. Ça, c'est la façon de faire, parce que entre 4,59 puis 10$, il y a une belle différence de prix pour acheter du beurre, cette matière grasse, on va dire indispensable. Maintenant, on ne comprend pas trop, ça se passe avec le beurre, ça se passe avec la crème, ça se passe avec le lait. Vous allez voir toutes les semaines, sur les yogourts, vous avez une guerre de réduction de prix entre grandes surfaces, mais on ne sait jamais quel est le vrai prix à payer pour ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que si vous voulez du beurre, parce que du beurre, c'est du beurre, ben faites comme moi, achetez-les quand vous les voyez en spécial et puis vous les stockez tout simplement au congélateur. Voilà mes chers amis, j'espère que le début de l'année est bon pour vous. Je vous souhaite encore une bonne année puisque nous sommes dans la finalité et que bientôt, ben, on va tomber dans le mois de février déjà. Et oui, on arrive bientôt février, puis c'est la Saint-Valentin qui s'en vient. Alors je vous embrasse, je vous souhaite à tous une belle semaine. Merci d'être fidèles chaque semaine à l'audition Assiette et Fourchette. Ici Philippe Mollet au microphone. À bientôt. Au revoir.